J'ai à mon actif des comportements passés, dont je ne suis pas fier du tout et que j'emporterai avec moi dans la tombe. Mais j'y pense, peut-être que vous aussi. Sur les 12 apôtres que Jésus a choisis, l'un l'a trahi et un autre l'a renié. Voilà un triste commentaire sur la nature humaine. Je continue à lire dans le chapitre 26 de Matthieu. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors, dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen !» Mais Pierre le nia en disant « Devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire !» Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là « En voilà un qui était avec Jésus de Nazareth !» Il le nia de nouveau et il jura « Je ne connais pas cet homme !» Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens, c'est évident, il suffit d'entendre ton accent !» Alors, Pierre se mit à dire « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme !» Et aussitôt, un coq chanta. Alors qu'il avait cheminé 3 ans avec le Seigneur, vu ses miracles et entendu ses avertissements, Pierre répudie son maître devant une petite servante, quelques heures seulement après lui avoir juré fidélité jusqu'à la mort. Il y a de quoi pleurer. La crainte des hommes et une trop grande confiance en lui-même ont eu raison de la bravure du grand Pierre, le porte-parole des disciples. Je finis ce chapitre. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Luc précise, « Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. » On imagine la scène. Pierre, qui a lâché son maître, jure qu'il n'a jamais vu ce Jésus. Et alors, c'est l'enchaînement terrible. D'abord, le coq chante, puis vient l'horreur. Le regard atrocement lourd du Seigneur qui se pose sur lui. L'angoisse est indescriptible. Il se souvient de ce que Jésus lui avait dit et voudrait disparaître sous terre, tellement il a honte. À sa défense, il faut dire qu'il a reconnu son acte ignoble et s'en est amèrement affligé. Or, comme le dit si bien Voltaire, Dieu fit du repentir la vertu des mortels. Mais cet acte lâche va lui servir de leçon et sera comme le négatif d'une magnifique photo révélant plus tard une bravoure inattendue. Pierre sera métamorphosé après que le Seigneur ressuscité lui aura accordé le pardon. Nous arrivons au chapitre 27 de Matthieu qui va décrire l'événement capital de la crucifixion de Jésus. Aucun des évangélistes ne donne de détails sur le supplice lui-même, mais tous décrivent les circonstances qui l'entourent, les allées et venues des uns et des autres, les décisions prises dans les couloirs et la bassesse humaine en général. Je commence à lire. L'aube s'était levée. L'ensemble des chefs et des prêtres et des responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour leur faire condamner à mort. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains. Cette deuxième rencontre du grand conseil est destinée à confirmer la sentence décidée la nuit précédente. L'accusation étant défini, il s'agit maintenant d'obtenir l'accord des autorités romaines pour imposer la peine de mort. En temps normal, le gouverneur résidait à Césarée sur la côte méditerranéenne, loin au nord de Jérusalem, où il ne se rendait que lors des fêtes juives avec l'armée pour maintenir l'ordre. Pilate se trouve donc dans le palais d'Hérode, qui était sa résidence lorsqu'il venait en ville. Je continue. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Judas ne désirait pas la mort de Jésus, qu'il reconnaît comme innocent. Il n'empêche qu'il a bel et bien prémédité la trahison de son maître pour son bénéfice personnel. Il s'intéressait beaucoup à l'argent, puisqu'il tapait dans la caisse. Mais il cherchait aussi le prestige, la reconnaissance des autres, et surtout de la classe religieuse au pouvoir. En bon politicien, il voulait être quelqu'un d'important, valorisé par le peuple, et bien sûr riche. Tout au début, le message et la personne de Jésus l'avaient captivé. Mais dès qu'il a compris que le Christ n'allait pas établir un royaume politique par la force, il devint amer. Il décida alors d'exploiter sa position privilégiée d'apôtre pour se faire une place au soleil. Mais les choses n'ont pas tourné comme il l'espérait. Il se rend compte qu'il a mal calculé son coup et mal agi. Alors, il s'en veut à mort, littéralement, et part pour son rendez-vous avec les ténèbres. Le suicide de Judas suit de très près les larmes de Pierre. Ses disciples ont tous deux vendu leur maître. Mais Pierre seul se repent et sera rétabli tandis que Judas sombre dans le désespoir. Il aurait encore pu implorer la miséricorde du Christ et recevoir le pardon, car c'est justement ça la signification de la croix, l'absolution accordée au plus vil des hommes. Peu importe qui je suis et ce que j'ai pu faire, le sacrifice de Jésus couvre mes fautes si je me confie en lui. Je continue. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent « On n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore, de nos jours, le champ du sang. Ainsi se réalisa la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris des 30 pièces d'argent, le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé, et ils les ont donnés pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. L'attitude des religieux révèle leur hypocrisie et la turpitude de la religion pharisienne, légaliste et hautaine. Ils avaient tiré cet argent du trésor sacré du temple pour le donner à Judas, mais ils refusent de le reprendre pour ne pas se rendre impurs. Ces gens sont des coquilles vides attachées à un dogme mort. Je continue. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Lui, demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, répondit Jésus. » Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas même un seul mot. Jésus a été présenté à Pilate comme quelqu'un de dangereux pour Rome parce qu'il se dit roi. Jésus ne parle que pour dire qui il est, mais sans répondre aux accusations insensées des religieux. Pilate est étonné du silence de Jésus, car les condamnés se défendaient toujours ce qu'il leur accordait. Je continue. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc, « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Barabbas était un meurtrier qui se battait contre Rome en Palestine. Pilate savait très bien que les religieux étaient de vieux filous qui voulaient se débarrasser d'un rival gênant. Il croit donc que la foule va choisir la libération du Christ, ce qui résoudra son dilemme. Jusqu'à là, le gouverneur essaye de rendre une justice équitable. Je continue. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai eu fort été tourmenté par des rêves à cause de lui. » Matthieu est le seul à nous rapporter ce curieux indice. Les rêves jouaient un rôle important dans la piété des gens de l'époque, car on disait y discerner des messages divins. Il est probable que Dieu ait ainsi averti Pilate qu'il était sur le point de condamner un homme juste. Il aurait pu se laver les mains un peu plus tard. Cela ne va pas lui enlever sa tâche. Il reste coupable pour l'éternité d'avoir envoyé à la croix un homme qu'il savait innocent. Je continue. Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?»« Barabbas » cria-t-il. Auparavant, une bonne partie du peuple était en faveur de Jésus, mais leur attitude inconstante montre à quel point les religieux avaient d'influence sur eux. Je continue. Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie? Et tous répondirent, crucifie-le, mais enfin, reprit Pilate, qu'a-t-il fait de mal? Eux cependant criaient de plus en plus, crucifie-le! Je me demande combien de personnes guéries par Jésus ont demandé son exécution. Pilate est étonné de la réaction de la populace. Selon l'évangile de Jean, le gouverneur interrogea Jésus à plusieurs reprises, car il essayait frénétiquement de le libérer à condition que cela ne lui coûte rien. Mais la chose que le Christ lui a dite est que son royaume n'était pas de ce monde. Je continue. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et, devant la foule, se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. » Pilate est le triste exemple des politiciens véreux qui cherchent avant tout à plaire. Obligés de prendre une décision, ils décident de ne pas risquer un soulèvement, ce qui compromettrait sa carrière. Je continue. Et quand le peuple répondit que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants, la foule a clairement prononcé son propre jugement. On connaît la suite, la destruction de Jérusalem, les pogroms, l'antisémitisme et la diaspora. Je continue. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre de coups de fouet, il le livra pour qu'il le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte contre lui. Ce minable pion a relâché un criminel et condamné celui qui a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Les soldats étaient désormais libres de brutaliser Jésus à souhait. La flagellation était un châtiment particulièrement brutal, au point où parfois les condamnés en mouraient. On attachait la victime sur un petit poteau par les mains et les pieds de façon à ce qu'elle soit courbée. Puis, des deux côtés, à tour de rôle, les soldats lacéraient la chair du dos avec un fouet aux lanières munies d'embouts de métal et d'os. Je continue. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant, sur un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et, prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Pour s'amuser et satisfaire la foule assoiffée de sang, les soldats se moquent de Jésus. La crucifixion était le mode d'exécution des esclaves, des criminels et des soldats ennemis. Je continue. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus un vin mêlé avec du fiel, mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Jésus commença par porter la croix, mais ne put continuer à cause de sa faiblesse physique. C'est pour cela que Simon fut obligé de le faire pour lui. Je continue. Après l'avoir crucifié, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. C'est par un seul mot, un participe, que Matthieu décrit le crime le plus abominable que l'homme n'ait jamais commis, celui d'exécuter son Créateur. C'est aussi l'acte légal par lequel Dieu a une fois pour toutes réconcilié avec lui-même tous ceux qui croiraient en Jésus. Le vin offert au Christ et le tirage au sort de ses vêtements avaient été prophétisés. Je continue. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit, comme motif de sa condamnation, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs !» Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix !» De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi, de la même manière. Luc précise qu'un des malfaiteurs changea de ton, se repentit et s'adressant au Christ, a dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. » Alors le Christ avait refusé de réagir face à ses accusations et aux questions de Pilate. Il a immédiatement répondu au brigand, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Les religieux qui avaient réussi à faire exécuter le Christ auraient au moins pu le laisser mourir en paix. Mais non, ils sont là, comme une horde de chacals à aboyer, à se moquer. Une prophétie écrite 1000 ans avant que la crucifixion n'existe dit, ceux qui me voient se rient de moi, tous ils ricanent, ont fait la moue en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel, eh bien, que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Je suis comme une eau qui s'écoule, et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'il se fond en moi. Ma gorge est desséchée, comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent. Ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Je continue le texte. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays fut entier plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama shamachati !» Ce qui veut dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains s'exclamèrent, « Il appelle Eli !» Le d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent, « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » Comme Pâques était toujours célébré en période de pleine lune, il ne peut s'agir que d'une obscurité surnaturelle qui enveloppa le drame qui se jouait sur la croix. L'Éternel, le Fils de Dieu, réglait leur compte. Jésus portait toutes les fautes de tous les hommes, de tous les temps. Je cite un texte du Nouveau Testament. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » La croix devint l'autel du sacrifice sur lequel fut immolé l'agneau parfait de Dieu, le Christ, qui a le pouvoir d'effacer mes fautes et les vôtres, si vous venez à lui.